Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Quelle grâce de rentrer dans sa présence et de pouvoir le glorifier et l'honorer comme il se doit. Alors avant toute chose, je veux dire bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas vues. John, Francis, Maëva, etc. Nadège, au fond. Voilà. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on prie pour remettre ces moments entre les mains de Jésus. Seigneur, oui, maintenant nous tournons les regards vers toi. Père céleste, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi pour te dire, Seigneur, que ton onction se repose sur ces paroles qui vont être dites. Ta parole va être ouverte et c'est toi et toi seul qui dois être vu. Seigneur, que la puissance de ton esprit ouvre nos yeux, nos oreilles à tout ce que tu veux que l'on sache et que tu en sois glorifié, toi et toi seul. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin, encore aujourd'hui, d'ouvrir ta parole et de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Alors oui, pour toutes ces choses, que ton nom soit glorifié. Merci. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8 et 9. Hébreux 11, 8 et 9, où il nous est dit la chose suivante. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme à un pays étranger, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les promesses, les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchaient une patrie et qu'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée. Ils auraient eu l'occasion d'y retourner, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique, qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. » Il comptait que Dieu est puissant, même pour ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a un symbole en tout ça. Amen. Alors, c'est vrai que le passage que nous venons de lire pourrait dire, voilà, on va parler de la foi. Mais même s'il en est question, nous ne parlerons pas de la foi. Le sujet de ma prédication, et ça sera le titre, ça sera avoir les regards bien fixés. Notre regard et la manière dont nous considérons les choses sont déterminants. La question est la suivante. Vers quoi et vers qui notre regard est-il tourné? Un jour, quelqu'un a dit, on avance du côté que l'on fixe les regards, que la direction soit bonne ou mauvaise. Alors, l'histoire d'Abraham en est un exemple. Et nous allons voir ça dans Genèse. Ça commence au chapitre 12 jusqu'au chapitre 19, mais nous n'allons pas lire tous les chapitres, je vous rassure, sinon nous sommes là encore cet après-midi. Quoique, nous pourrions, si Dieu le voulait. Nous allons voir Abraham, Lot et sa femme qui ont manifesté trois regards différents. Trois regards sur la vie et sur Dieu. Et donc en trois points, nous allons voir l'importance du regard et de ses conséquences. Le premier point sera le regard de la foi. Deuxième point, le regard irrésolu. Et le troisième point, le regard du regret. Et bien entendu, dans le premier point, on ne peut parler du regard de la foi sans parler d'Abraham. Dans le début du chapitre 12 de la Genèse, il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Ça, c'est les promesses de Dieu. Abraham est dans son pays, à Ur. Il vit tranquillement. Il jouit d'une bonne réputation. Il est prospère et même bien prospère. Et là, subitement, il reçoit l'appel de Dieu qui lui demande de regarder à lui et de le suivre sur le chemin qu'il lui indiquerait et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. Je ne sais pas si on réalise la conséquence. Il est 6h, 7h du matin, vous êtes devant votre tasse de thé avec votre épouse ou de café. Et subitement, vous dites à votre épouse, chérie, fais les valises, on s'en va. Mais on va où, qu'elle va dire? Mais je sais pas, on s'en va. Dieu a dit, ça, c'est un choc. C'est un choc ce que Dieu lui dit. Mais pourtant, on s'aperçoit que Abraham, lui, il partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Quel choix pour lui? La sécurité ou l'obéissance à la parole de Dieu? Abraham, lui, il opte pour le regard vers Dieu. Oui, mais quel sera le chemin? Abraham ne s'arrête pas à sa propre perception. Il choisit de regarder à Dieu. Et ce choix sera posé à nouveau à chaque épisode de sa vie. À savoir, entre le choix d'avoir le regard sur lui-même ou sur Dieu, entre sa conception humaine ou l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y aura dans sa vie, bien sûr, des exemples négatifs, comme par exemple sur le fils de la promesse, Isaac, où là il a agi d'une manière, on va dire, charnelle, humaine. Il n'a pas attendu. Et les conséquences se font ressentir encore aujourd'hui, voyant l'opposition qu'il y a entre la descendance d'Isaac et ceux d'Ismaël, entre le peuple d'Israël et les peuples arabes. C'est flagrant aujourd'hui par rapport à tout ce que l'on voit à la télévision. Mais dans beaucoup d'autres circonstances, il décide de se consacrer à Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand il lui demande d'offrir son fils, Isaac, le fils de la promesse, en sacrifice, il est prêt à le faire. Ça, nous le voyons dans la Genèse au chapitre 22. Il comprit ce que les anges lui avaient dit à propos de la future naissance d'Isaac, son fils. Qu'est-ce que lui avaient dit les anges ? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Et ce matin, l'Esprit te dit, et nous dit à tous, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? L'écoute a précédé l'obéissance. Le souvenir de la parole de Dieu a orienté son regard. Il a opté pour la solution, regarder à Dieu, plutôt qu'à sa propre sécurité, à sa logique, à ses conceptions, à son expérience, bien que déjà importante. Il a décidé de confier toute sa vie à un Dieu qui ne trompe ni ne se trompe. Ce regard de la foi en Dieu a entraîné des conséquences extraordinaires. D'abord, une vie d'incertitude. Quelle sera la prochaine étape ? Où Dieu va-t-il le conduire ? Une vie de lutte aussi, où rien n'est facile, parce que la foi en Dieu rencontre l'opposition d'une société qui n'a pas la foi. Mais aussi, une vie de victoire. Au chapitre 14 de la Genèse, on peut le voir, on peut lire toutes les victoires que Dieu a accordées à Abraham. Une vie, non pas d'errance, mais où il a pu constater le plan parfait de Dieu pour lui. Il a pu voir comment Dieu l'a dirigé et l'a dirigé sur un chemin sûr. Une vie de bénédiction. À l'obéissance, Dieu répond par l'épreuve de son amour, de sa puissance, de sa protection, de son action à l'impossible à des vues humaines. Il suffit de lire Genèse au chapitre 17 pour s'en rendre compte. Une vie aussi de relation avec Dieu. Une vie de relation parce que il va être appelé l'ami de Dieu, fondé sur la réalité des choses spirituelles qui changent le cours de l'existence. Abraham ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il connaissait celui qui le lui réservait. La foi a eu des conséquences visibles et concrètes. Abraham a compris une chose, et une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas voir pour croire, mais il faut croire pour voir. Il a été cet homme qui s'attendait à tout parce qu'il ne comptait pas sur lui-même ni sur les autres en priorité. Il nous est dit dans le livre de Romains, au chapitre 4, au verset 18, sur Abraham, espérant contre toute espérance, voulant dire que quand il n'y avait plus rien à espérer, lui, il espérait toujours, il espérait encore. Dans le livre de Romains, toujours au même chapitre 4 et au verset 3, Dieu le cite comme un exemple, où il nous est dit, Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. En parlant de la foi, quelqu'un a dit la chose suivante. La foi, c'est une aveugle qui donne des yeux à l'espérance. À la fin de sa vie, malgré l'affaiblissement physique, sa vieillesse, il nous est dit que Abraham a toujours gardé la foi. Abraham n'était pas, ou le regard d'Abraham plutôt, n'était pas celui d'un rêveur. Il n'avait pas la tête dans les nuages, et il ne mettait pas non plus dans la bouche de Dieu ses propres désirs. Mais il était un homme spirituel, et il a prouvé sa soumission et son obéissance à Dieu. Dieu nous a créés pour être des êtres spirituels, c'est-à-dire en connexion permanente avec lui-même. Et le regard de Dieu, que Dieu voudrait que nous ayons, est celui de la confiance en lui. C'est-à-dire celui qui nous fera vivre une vie pleine et victorieuse. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas avoir de difficultés, que nous n'allons pas avoir d'épreuves. Jésus lui-même dit que l'on aura de toute façon des tribulations dans le monde. Mais il dit aussi, prenez courage. Prenez courage parce que moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde. À la croix, Jésus a vaincu tout ce qui nous rendait captifs. Et nous n'avons pas à marcher en vaincu, mais nous devons marcher en vainqueur, la tête haute, les regards dirigés vers celui qui nous garde et qui nous protège. Les promesses de Dieu à notre égard, elles sont sûres et elles sont certaines. Parce que dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 5 et 6, Dieu dit la chose suivante, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Les promesses de Dieu, elles sont oui et elles sont amen. Et Pierre, dans son épître, nous encouragera à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Pourquoi ? Parce que lui-même prend soin de nous. Et dans Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 11, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. « Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. » Je veillerai sur elles. Ça me fait rappeler une histoire qui est la mienne. Le jour où je me trouvais dans le Lot-et-Garonne, j'étais dans le désespoir, j'étais complètement abattu, je ne savais plus ce qui se passait dans ma vie, d'ailleurs ma vie ne comptait plus pour rien. Alors, j'avais perdu la tête, etc., et je pris ma voiture, et j'ai roulé du Lot-et-Garonne 300 kilomètres, sans savoir où j'allais, en fait j'avais un but bien précis, m'enfoncer dans une forêt, et personne ne me trouverait. J'ai roulé pendant 300 kilomètres, une forêt que plus ou moins je connaissais. J'ai mis ma voiture, enfoncé ma voiture dans ce bois. Et là j'ai dit, personne ne viendra me chercher. Personne. C'était la fin de l'après-midi, j'étais fatigué et j'ai commencé à m'assoupir. Je ne sais pas combien de temps. Mais la chose que je sais, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une lumière, et je vois ça comme si c'était hier. Je m'en souviens, ça m'a pénétré, et je m'en souviendrai tout le temps tellement que c'est intense. Il y avait cette lumière en face de moi qui m'aveuglait. J'étais là, je regardais. Je dirais pas si c'est un ange ou si c'est Christ, mais ce que je sais, c'est que cette lumière m'a mis dans un état où ça a tout recadré dans ma tête. D'un seul coup, tout a été recadré, comme si j'avais eu un lavage de cerveau. Et là, face à cette lumière, je ne savais plus trop quoi dire. J'ai baissé les yeux. J'ai dit, maintenant, il faut que tu rentres à la maison. Je suis reparti comme un homme nouveau. C'est l'impact de cette lumière, et je veux croire que c'était Christ qui était là, qui a posé sa main sur moi à ce moment-là, parce qu'il est conforme à sa parole. Je veillerai sur toi. Je te guiderai où tu iras. Et je suis reparti comme si rien n'était. Tout s'est passé d'une manière miraculeuse. Gloire à Dieu pour ça. Ce n'est pas face à nos mérites, mais c'est parce que sa bonté et sa grâce est tellement importante pour nous. À savoir qu'il nous aime, chacun d'entre nous, pour ce que nous sommes. Devant lui, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Nous sommes tous égaux devant lui. Et il nous aime tous de la même manière. Soyons-en convaincus, que tu aies de l'éducation ou pas, que tu sois manœuvre ou architecte ou je ne sais trop quoi, que tu aies une science de je ne sais trop quoi. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous pareils et son amour est le même. Deuxième point, sans prendre trop de temps, nous allons voir le regard irrésolu. Le regard irrésolu, c'est celui de Lot. Lot avait été séduit par l'appel que Dieu avait adressé à son oncle Abraham. Alors ils sortirent ensemble du pays de Hur. Oui, mais voilà. Est-ce que la foi de Lot était la même que celle d'Abraham? Ou vivait-il sa foi au travers de celle de son oncle? Par personne interposée, regardant à l'homme, même si Abraham était quelqu'un de remarquable, plus qu'à Dieu. Il nous est dit dans la Genèse au chapitre 13 et au verset 10, au moment de la séparation d'Abraham, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Quand Dieu ne remplit pas un être, c'est l'influence de sa nature propre qui prend le dessus et le domine. Le regard détermine les choix. Et Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qu'il choisit. Qu'importe la corruption qu'il régnait, il voit là la chance de sa vie. Il saura de toute façon se préserver de la souillure de ce pays, parce que de toute façon, il est croyant, lui. La convoitise n'est pas liée à la prospérité, parce que lui-même, Lot, est déjà très prospère, il est très riche. Mais la convoitise est attachée à une insatisfaction permanente. Et Jacques, dans sa lettre au premier chapitre, nous dira « Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. » Le regard influence notre vie. Billy Graham disait « Le premier regard n'est pas un péché. » C'est le premier, c'est le deuxième qu'il est. Pourquoi ? Parce que le premier, c'est un effet de surprise. Le second, c'est une convoitise. Notre regard est constamment sollicité pour que nous possédions toujours plus, toujours mieux. La tentation est vraiment subtile. Notre regard est-il irrésolu, indécis, perplexe, incertain, indéterminé, hésitant, versatile? En quoi est-ce que nous regardons? La foi en Dieu et la foi en nous-mêmes, ou en priorité dans notre société qui offre tant de facilités? Notre foi s'appuie-t-elle sur un engagement personnel ou sur la foi que nous voyons chez l'autre? Comme il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, ayons les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Notre regard va déterminer ou influencer notre marche avec Dieu. Et finalement, le troisième point, le regard du regret. Le regard du regret, eh bien, c'est la femme de Lot. Un seul verset va nous parler d'elle. Quand Lot et elle partent entraînés par des anges loin de Sodome. La femme de Lot regarde en arrière et se transforme en statue de sel. Les envoyés de Dieu avaient bien dit pourtant à Lot, ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière, cours, ne regarde pas derrière, parce que sinon tu disparaîtras. Ça c'est dans le verset 17 de la Genèse que nous y trouvons. Mais voilà, le regard de la femme de Lot manifesta le regard du regret. Le regard du regret par rapport à ce qu'elle possédait,
à ce qu'elle doit abandonner. Le regret par rapport à ce qu'elle a devant elle. Le désert, l'inconnu. Toujours est-il, elle regarda en arrière. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'elle meure. Dieu voulait qu'elle vive. Garder le regard rivé sur le passé détruit et conduit à vivre dans le découragement et dans le désespoir. Et dans Ésaïe, au chapitre 43, au verset 18 et 19, voici ce qui nous est dit. « Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Jésus a repris l'exemple de la femme de Lot. Il a dit la chose suivante dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 32-33. « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Nous sommes tous appelés à nous abandonner totalement à Christ. Lorsque nous acceptons Christ, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Ce qui n'enlève rien à ce que nous sommes, à notre personnalité. Mais ce doit être Christ qui vit en nous. Nous ne vivons plus pour nos propres intérêts, mais pour les siens, et pour que son nom soit glorifié. Que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 24 et 25? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine, voulant dire celui qui fait peu de cas de sa vie, pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Il est dit ceci du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion du souvenir, mais c'est une relation intime de la présence divine, celle de Dieu pour nous, aujourd'hui, comme chaque jour qui nous reste à vivre. Abraham a vécu cette présence rassurante et protectrice. Pourquoi ? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Il a placé sa confiance en Dieu. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas de regard. Ayons les regards sur la parole de Dieu. Le regard de confiance en Dieu nous fera vivre des nouvelles étapes dans la certitude qui nous accompagne. Y compris surtout quand nous le sentirons le moins. Quand nous passerons par des épreuves, dans nos difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il a promis d'être avec nous chaque jour et que son regard est un regard d'amour. Jésus lui-même dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Jésus est cet ami fidèle qui ne change pas. Rappelons-nous que quand nous sommes faibles, il nous rend forts. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés, quand nous sommes désespérés, quand nous ne pouvons plus avancer, c'est lui qui nous porte. Il sait de quoi nous sommes faits. Saint Augustin a dit la chose suivante. Regarde le ciel, partout et de tous côtés, il enveloppe la terre. Il n'existe pas une seule parcelle de terre qui n'en soit recouverte. Quand le ciel cessera de recouvrir la terre, Dieu alors cessera de protéger ceux qui le craignent. Alors, comme le dit ce cantique que nous chantions autrefois, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, les regards fixés sur Jésus, ayons la bonne attitude du regard, celle qui fait confiance en Dieu, envers et contre tout. Le psaume 32, verset 8, dit la chose suivante. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Ce matin, cette parole, elle est pour toi. Elle est pour nous. Nous avons besoin d'avoir le regard bien fixé. Bien fixé. Sur quoi regardes-tu aujourd'hui? Sur quoi fixes-tu tes regards ce matin? Où sont tes yeux? Où est ton cœur? Que Jésus soit glorifié. J'aimerais que l'on prenne 5 minutes. Un peu de temps, quelques minutes simplement, pour rentrer en nous-mêmes par rapport à ce qui vient d'être dit. Je sais, il est l'heure, mais j'aimerais, parce que ce temps est le temps de Dieu, c'est le temps du Saint-Esprit. Rentrons 5 minutes, enfin pas 5 minutes, mais quelques instants, dans ce moment. Fermons les yeux, les regards fixés sur Jésus. Rentrons en nous-mêmes. Que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Sommes-nous prêts à avoir ce regard fixé sur lui? Sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur pour s'oublier soi-même, pour mourir à nous-mêmes, pour faire passer les intérêts de Christ avant les nôtres? Sommes-nous prêts à glorifier son nom comme il se doit, comme la parole de Dieu nous le demande? Sommes-nous prêts à être ce grain de bleu qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de prix, beaucoup de fruits? Oublier nos propres intérêts, faisant passer ceux de Christ en premier. Étons-nous prêt à vivre cette vie que Jésus veut que l'on vive, celle qui s'est acquise à la croix, celle pour qui il a été crucifié, celle pour qui il a saigné, il a répandu son cœur, son sang. Sommes-nous prêts à considérer le prix payé du sacrifice de la croix? Lorsque rien ne va, est-ce que tu mets dans ton cœur cette parole « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » ? Est-ce que tu fais réellement confiance à 100% à Jésus-Christ et à tout ce qu'il a accompli? Quel est le regard que l'on fixe sur la parole de Dieu, sur son enseignement, sur ses promesses, lorsqu'il dit qu'il ne nous laissera jamais orphelins, lorsqu'il dit qu'il est chaque instant de chaque jour auprès de nous, lorsqu'il dit « Ne crains pas, crois seulement, je suis avec toi. » Dans toutes nos situations, dans tous nos échecs, mais aussi dans toutes nos victoires, dans toutes les larmes que nous versons, dans nos incompréhensions, dans tous nos pourquoi. Est-ce qu'on a vraiment les yeux fixés sur Jésus pour lui dire « Oui, Jésus, prends tout, prends ce que je suis, rien pour moi, mais tout pour toi, pour ta gloire. » Sommes-nous prêts à être ce disciple que Jésus veut que l'on soit? Parce que Jésus n'a pas dit « Allez et faites des membres », mais il a dit « Allez et faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et tout ce qu'il nous a prescrit, c'est dans sa parole. D'où la nécessité de méditer, pas simplement de lire, mais de méditer sa parole, son contenu, qui est là pour nous garder sur le chemin où il veut que l'on soit. Oui, ayons les regards fixés sur Jésus. Et alors, là, et là seulement, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous allons voir la victoire de Jésus-Christ. Nous allons voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Mais rappelons-nous que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si c'est pour ta propre gloire, n'attends rien en retour. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, attends toute chose, comme Abraham crut et fut appelé l'ami de Dieu. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as voulu nous dire ce matin, tout ce que tu as voulu nous partager. C'est Dieu, Seigneur, que nous sachions mettre en pratique ta parole, que nous sachions mettre en pratique tes promesses, que nous sachions être les gens que tu veux que l'on soit, afin que tu sois vu au travers de nous et que ton nom soit glorifié et que des gens soient attirés, non pas par nous, mais par toi, par ceux qui voient. Tu as dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre, que nous sachions alors être ce sel et cette lumière et marcher pour la seule et unique gloire de ton nom, pas simplement qu'un jour, le dimanche, mais tout le reste de la semaine aussi, chaque instant de chaque jour, et même quand nous dormons, que tu occupes notre vie entière. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, maintenant et pour toujours. Amen.